Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Geneviève Hutin, Christine Goémé, Alban Penaranda, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, avec vous jusqu'à 6h30.
La nuit rêvée de Philippe Solers, écrivain. Écrivez donc des romans, beaucoup de romans, des essais sur la littérature, sur l'art, des préfaces, des articles. Vous êtes également éditeur et vous dirigez la revue L'Infini. Bonsoir Philippe Solers.
Bonsoir Christine Goémé.
Merci de passer cette nuit avec nous pendant laquelle vous nous proposez d'écouter des voix d'écrivains. Alors on sait que la voix est le lieu où le corps et l'esprit révèlent leur unité. Les voix que nous entendrons cette nuit seront celles de Joyce, de Breton, d'Artaud, de Bataille, de Mauriac, de Céline, de Malraux, de Plénet, de Dominique Rollin et de Julia Kristeva. Cette nuit d'écoute est donc placée sous le signe de quelques-unes de vos lectures et de l'écriture qui s'ensuit. Philippe Solers, commençons, si vous voulez bien, par nous dire pourquoi vous avez choisi d'écouter du Bach interprété par Glenn Gould.
Parce que je crois que seul Gould fait entendre ce qu'est réellement une note. Bach et Haydn sont ceux qui se rapprochent le plus près de la quintessence de ce que peut être une note. Une note est l'envers de la note elle-même. Il y a un testament de Gould sur les sonates de Haydn, absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un musicien qui s'interrompt tout le temps. Bach, c'est en somme le contraire. C'est quelqu'un qui enchaîne tout le temps de façon mathématique. C'est une équation en mouvement. Et si l'on joue ça trop lentement, trop vite, trop appliqué, c'est pas ça. Il faut une inspiration considérable. Vous avez vu Glenn Gould jouer, il a été enregistré, vous avez vu comment il s'installe, comment il fait très attention à sa chaise, comment son menton touche quasiment les notes, comment il chantonne de temps en temps parce que la musique résonne en lui d'une certaine façon dans sa voix. Ça déplaisait au producteur qui enregistrait, parce qu'il est un pianiste, chantonner. Il y a deux extraordinaires musiciens qui chantonnent comme ça, en dépit des règles de l'enregistrement, c'est lui. Et l'autre qui est tout à fait bouleversant, c'est Pablo Casals au violoncelle, sur Bach. Donc Bach étant le musicien absolu, il y a les autres bien entendu, mais enfin c'est l'absolu, c'est Dieu si vous préférez, pour la musique. J'ai pensé que c'était pas par hasard si Gould avait mis tant de soin à l'enregistrer et a compris que l'enregistrement était un art en soi, c'est-à-dire au centième de seconde, et si ça ne va pas, on recommence.
Alors sur Bach, je vous cite Philippe Solers, Bach plane, il descend, il se pose à peine, il repart, il s'élève, tonne, foudroie, chuchote, interpelle, souffre, jouit, s'en va, il joue à être à trois en un dans les siècles des siècles. Et vous continuez, il endort les puissants, il sauve les humbles, Déposuit potentes décédée et exaltavit humiles.
Déposuit potentes. Voilà. Vous voyez, ça c'est un chant tout à fait révolutionnaire. On va supprimer les puissants. Déposuit potentes. Ben vous savez, si les gens se mettaient ça dans la tête, ils se soulèveraient. Parfois, ça leur arrive.
Depuis donc Le Parc paru en 1958.
61. Une curieuse solitude 58.
Ah, c'est l'inverse.
Ouais.
Tiens bon. Drame 65. Nombre 68. Ouais. Loi 72. J'aimais beaucoup Nombre. H 73, ça c'est très beau. Paradis 81. Enfin, beaucoup de livres jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment travaillez-vous, Philippe Soler? Savez-vous beaucoup changer votre manière de travailler? Est-ce que vous avez des heures précises auxquelles vous vous tenez, par exemple?
Vous savez, un écrivain écrit tout le temps. Donc là, j'ai l'air de pas écrire, mais je suis en train d'écrire quand même. C'est-à-dire que j'enregistre l'émission en même temps qu'elle est enregistrée. Donc je vous regarde et déjà la façon dont vous portez vos lunettes sur le nez pourrait me fournir en effet un tout petit passage avec le sourire qui convient. Donc tout est fait à la main. Hein. Je récuse complètement l'ordinateur qui est sourd. L'ordinateur est sans musique et les écrivains qui s'ordinatrisent sont dépourvus de voix, justement, et ne travaillent plus leur voix. Quand vous travaillez, mais c'est un jeu aussi, hein, c'est pas un travail. On est loin des souffrances proclamées de Flaubert, etc. On n'arrive pas à la page vertige de la page blanche. Non. Chez moi, ça vient assez spontanément, ça dépend de... Et ça me permet de vérifier avec mon écriture, ma graphie, si je vais plus ou moins bien. Si je vais bien, la graphie est très régulière. Si je vais moins bien, elle devient un tout petit peu empâté et embarrassé. Sinon, il faut que ça coule. Il faut que ça devienne de l'eau qui coule, vous voyez. Et donc, tout pour ça, il faut écrire constamment dans sa tête. Il n'y a pas de répit. Et pas plus que si je vous racontais mes rêves de la nuit et qui sont aussi partie prenante dans cette affaire. Donc, c'est tout le temps.
Donc, vous pourriez reprendre à votre compte ce que dit Céline. Ce qui ne chante pas n'existe pas pour l'âme.
Oui.
Merde pour la réalité. Donc l'écriture, au fond, ce serait pour vous une des formes que prendrait la musique.
C'est la forme, pour moi, de la musique. Je suis très frustré de ne pas avoir été musicien, de ne pas avoir pu jouer notamment de la clarinette, parce que j'étais fou de Johnny Depp.
Vous jouez du piano, je vous ai déjà entendu.
Oui, je pianote, mais c'est pas ça. Mais avec les mots, là, je dois dire que j'essaye de me débrouiller. On m'a fait beaucoup de reproches dans tous les sens. Personne n'a jamais dit que j'écrivais mal, par exemple. Donc, voilà, c'est drôle. On devrait commencer à le dire. Oh, il écrit mal. Non, il sait placer les tonalités. De toute façon, j'ouvre des manuscrits toute la semaine, hein, en tant qu'éditeur. Je vois tout de suite s'il y a une voix ou pas. Un écrivain qui écrit sans s'entendre n'écrit pas. Il est en train de fabriquer des images de films et que tant pis pour l'intendance des mots suivra. Hein. La plupart des best-sellers, c'est ça. Tout simplement, c'est on ouvre et on suit
on
un film. Peu importe le style.
Phrases,
voilà. Alors, s'il y a pas le... Alors, un manuscrit intéressant, c'est que là, vous entendez une voix, comme chez tous ceux que nous écouterons. Ce sont d'abord des voix. Ça se passe en trois lignes, en quatre lignes. C'est comme... j'ai une assistante chez Gallimard qui est souvent un peu choquée de façon morale parce que je lui dis au bout de 10 lignes, non, à refuser. Elle me dit, mais comment, enfin ? Mais non, j'ai dit, c'est pas ça. Voilà. C'est comme au conservatoire. S'il y a une fausse note... tout de suite.
Donc voilà. Vous lui dites, ce qui ne chante pas n'existe pas pour l'âme, merde pour la réalité.
Oui, mais, la réalité, c'est pas le réel. Voilà ce que Céline veut dire.
Évidemment.
Merde pour, en effet, moi je dirais merde pour le cinéma.
Ah oui, carrément.
Carrément.
Alors, qui chante pour vous, par exemple, les écrivains qui chantent?
Les écrivains qui sont les plus doués pour faire résonner les mots et les enchaîner d'une façon tout à fait saisissante, il y en a un certain nombre. Le virtuose absolu pour moi, James Joyce.
On l'écoute.
Well, you know, don't you ken it or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashly. Feel-o. What age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I rare one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back. I'd want to go to Aixley Fames. Ping, pang, there's the bell for sex alighters. A concepta they send the spray. Pang. Ring out the clothes, ring in the dew. God of Ari, vert the showers and grant thy grace. Amen. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip, spread on your bank, and I'll spread mine on mine. Flap, it's what I'm doing, spread. It's churn and shield, their rent is rising. I'll lay a few stones on the hostel sheets, a man and his bride embrace between them, else I'd have folded and sprinkled them only. And I'll tie my butcher's apron here. It's suety yet, the strollers will pass it by. 6 shifts, 10 kerchiefs, 9 to hold to the fire, and 1 for the code, the convent napkins, 12. 1 baby shawl. Good Mother Joseph, no, she said. Whose head? Mother snores. They attach it. Where now are all her children, say? In kingdom gone, or power to come, or glory be to them, Father. All alluvial, all alluvial. Some here, more no more. More again lost at a stranger. I've heard tell that same brooch of the Shannons was married into a family in Spain. And all the dunders to dun in Markland's Vineland beyond Brendan's herring pool takes number 9 in Yangtze's hat. And one of Biddy's beads went bobbing till it rounded up lost history with a marigold and a cobbler's candle in a side strain of a main drain of a man's nohuries off Bachelor's Walk. But all that is left to the lost of the Mars in the loop of the years prefixed in between is 1 knee buckle and 2 hooks in the front. Do you tell me that now? I do, in troth. Or rara pro orbis et pur las animas. Usa ula, we're umbers all. Misha, didn't you hear it a deluge of times? Ofer and ofer, respond to spond. You did, I need. It's that ear of waddy knife stuck in my eyes. It all but hush with an evil sound. Oh, Runoko, what's your trouble? Is that the great Finn leader himself, in his joy kimono, on his statue riding the high horse there for Hengist? Father of authors, it is himself. Yon there, is it that, on Fallorine Common? You're thinking of Astley's amphitheatre, where the bobby or a stranger making sugar-stuffed pouts to the ghost white horse of the peppers. Throw the cobwebs from your eyes, woman, and spread your washing proper. It's well I know your sort of slop, flap. Ireland sober as Ireland stiff. Lord, help you, Mariah, full of grease. The Lord is with me. Your prayers. Aye, Sancho, Madam Angot. Why are you lifting your elbow, tell us, blazy cheeks, in Conway's Carrigacorough canteen? Was I what, hobbledy hips, flop?
Alors, l'extrait, là nous sommes en 1934, je crois. Joyce enregistre ça, il enregistre un autre morceau de Ulysse, qui est très très impressionnant. Comme il était presque aveugle, il a fallu lui faire des caractères spéciaux pour qu'il puisse s'y reconnaître dans sa propre invention. Vous voyez qu'il chantonne, qu'il murmure, qu'il y a des onomatopées. Vous entendez tout à coup « Orinoco » et à ce moment-là, vous êtes au courant que c'est probablement, mais même sûrement, le fleuve Orénoque qui se faufile là dans son discours. Et la fin est très émouvante pour moi. C'est simplement un tout petit envoi de son, comme ça. « Night », la nuit, « night », voilà. Et donc, c'est très, très émouvant. Il va mourir 6 ans après, et il a tenu absolument à enregistrer ça, qui reste, personne, tout le monde fait semblant de comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est pas vrai, mais lorsqu'on entend, on est ému ou pas de la façon qu'il faut pour comprendre. Voilà exactement ce qui se passe. Tout ça, vous savez, ça a été des extraits de voix à l'époque, parce que il faut célébrer quand même les premiers qui ont usé d'onomatopées, c'est-à-dire Dada en 1916 à Zurich, qui se sont présentés avec des poèmes uniquement d'onomatopées. Nous allons retrouver tout à l'heure Artaud qui parsème ses textes d'exorcisme, de syllabes, comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la communication, nous sommes aux antipodes de la communication, des textos, des SMS, tout ça, qui a envahi absolument l'être humain. Et nous sommes au contraire très proches de la prière. Là, si vous entendez la voix de Joyce, avec son accent irlandais, c'est R, c'est ça. va pour la salée, ma sœur, oui, par exemple. Et donc, on est très proche d'une sorte de psaume, de prière, de concentration, comme ça, avec quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a perdu quasiment la vue, hein, qui dit « Oh, bon, je perds la vue peut-être, mais enfin, ce n'est qu'un monde, j'en ai d'autres. » Voilà. Enfin, c'est des drôles de gens, vous savez, très courageux, très bizarres, qui s'enfoncent comme ça dans les petites choses de la sensation profonde. Au lieu que les autres bavardent ou font des pitchs ou des scénarios de films, ça n'a rien à voir. Là, on est chez les saints.
On passe à la présentation de nos archives, Philippe Sellers. Par exemple, Breton, qui un entretien avec André Parrainaud diffusé en 1952. Breton, c'est l'homme qui, quand même, a fait découvrir à tout le monde l'Outre-Amont. Ça a été le premier, vraiment, à en parler beaucoup.
Oui, enfin, à en faire quelque chose d'énorme, c'est-à-dire avec Aragon.
Là, oui,
il faut les mettre tous les deux ensemble, ne serait-ce que pour les différencier dans la voix. La voix de Breton, vous allez voir une voix à l'ancienne, extrêmement dictée. Il parle comme il écrit, c'est comme s'il lisait ce qu'il parle. Quand j'allais voir Breton rue Fontaine, c'était vraiment une expédition pour moi extrêmement impressionnante. Enfin, c'était de le voir avec un tableau de Quirico qui était sur la gauche, enfin, cet amoncellement de magie qu'il y avait autour de lui, et il parlait d'une façon extrêmement affable, très, mais exactement comme s'il était en train d'écrire. Hein, voilà. Donc c'est très rhétorique. En revanche, Aragon, lui, on allait le voir, il commençait à réciter ses poèmes avec une voix, alors une voix de lyrico-lyricopathique, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, comme s'ils étaient tous des élèves de Sarah Bernhardt. Vous avez la voix d'Apollinaire, très intéressante. C'est des voix complètement dépassées, c'est-à-dire ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Bon, alors Aragon, c'était, tu comprends, alors c'était, j'ai marché sur l'autre. Enfin, c'était. On aurait pu s'en aller et revenir une heure après. Il était toujours là en train de. Il ne s'apercevait pas qu'il y avait quelqu'un. Ça m'était. J'aurais pu aller prendre un verre ou café du coin, revenir, il aurait continué à se réciter lui-même. Ce sont deux personnages extrêmement importants pour l'histoire, mais complètement opposés dans la voix. Bien qu'Aragon fût d'une virtuosité considérable comme écrivain, hein, attention. Mais Breton, c'est l'ancien style, c'est vraiment le chef de parti qui vous parle, attention, avec une mémoire très intense et tout ça très châtié.
Donc vous écrivez sur Breton en 2007. Hein. J'ouvre le premier manifeste du surréalisme et je lis « Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore ». Voilà.
Breton, c'était vous savez, il s'est résumé vraiment. C'est l'amour, la liberté, l'amour, la poésie. Bon, c'était ça. Une des dédicaces que je possède pour la réédition des manifestes du surréalisme en 1962, à laquelle je tiens particulièrement, c'est l'écriture fine et bleue d'André Breton. Et il m'envoie ça, c'est très gentil, à Philippe Sellers, aimé des fées. F-E-E-S. Hein, signé André Breton. Comme c'était un spécialiste des fées, il a dû, je ne sais pas, on se connaissait très peu, mais enfin, il a eu ce jugement, comme c'est un spécialiste.
C'est vrai d'ailleurs, il avait raison. Je ne sais pas,
oui, je crois.
Vous êtes aimé des fées,
je suis détesté des sorcières, en tout cas.
Ensuite, Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu, ça c'est une radio.
Oh là, 1946. Oui, qui a été interdite, qui a fait tout un scandale. C'est un chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre, absolument.
C'est un chef-d'œuvre de voix.
Oui.
Et Et là, oui, ça se fait. Alors, Artaud, c'est l'homme de théâtre aussi qui travaille très, très travaillé. Ça a l'air comme ça jailli, mais pas du tout. Et on raconte, mais ne serait-ce pas un ragot. Alors là, le test du sperme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça, c'est très actuel. C'est-à-dire que dans les écoles américaines, on recueille du sperme pour fabriquer plus tard des soldats. Vous voyez, on est en plein dans l'époque actuelle, où, en effet, d'ailleurs, il semblerait que les spermatozoïdes soient en état de déficience, vous savez ça. Donc, on est dans le sujet, si je peux dire, le sujet dans son ovulation fondamentale. Et là, la voix d'Artaud traverse ça, avec alors des onomatopées qui vont arriver. Et là, c'est une colère, une sorte de prophétie absolument extraordinaire. Enfin, il faut l'écouter, quoi.
Artaud Bataille au fameux colloque de Cerisy.
Cerisy, oui, ça décoiffait beaucoup, d'autant plus qu'on était, on buvait beaucoup trop et qu'on était dans un état d'excitation que je regrette. Mais enfin, ça, vous savez, ça a bougé beaucoup. Non, alors Bataille, c'est tout à fait autre chose, aux antipodes. Oui. C'est l'être humain qui m'a fait. Ils m'ont tous fait impression d'une façon ou d'une autre. Artaud, je ne l'ai pas connu, bien sûr, mais je l'ai beaucoup écouté et lu. Mais Bataille, alors, est celui qui m'a donné la plus forte impression d'être vivant, ne serait-ce que parce qu'il se taisait. Alors, ses livres sont. Étaient considérés comme étant vraiment très, très, très brûlants. Hein. Mais lorsqu'il parlait, c'était une voix très douce, très ecclésiastique à la limite, très charmante, et sans faire d'effet. Or, il est clair qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la sagesse que Maurice Blanchot. Alors, est-ce que c'était ironique? Oui, en même temps, mais pas sarcastique, enveloppé, voilà, c'est ça. C'est un type absolument, absolument génial. Il m'a impressionné beaucoup parce que sa vie en elle-même de liberté a été extrême. Donc, sur le plan de la crudité sexuelle qui m'importe, c'est l'être humain qui m'a le plus impressionné. C'est-à-dire qui voyait juste. Et sans Bataille, en un sens, vous n'avez pas Lacan et compagnie.
Mais oui.
Comme c'est curieux que j'avais fait remarquer ça à Lacan, qui n'était pas content, que dans l'index des écrits, alors que le nom de Bataille est cité dans le livre, il y avait un oubli du nom de Bataille. Cette affaire serait à creuser. Il y a un petit roman policier à faire là-dessus, sur les rapports entre Sylvia Bataille, Sylvia Lacan, Laurence Bataille, etc., etc. Voilà. Alors, Laurence Bataille, qui était la fille du premier mariage de Charles Bataille. Je raconte cette anecdote parce qu'elle me paraît importante. Je dîne un soir à côté d'elle et je crois devoir lui dire que j'ai une grande, grande admiration pour son père, pour son géniteur en tout cas. Son père, elle lui ressemblait beaucoup d'ailleurs.
Elle portait son
Laurence,
nom. Hein.
Laurence Bataille, voilà. Et là, elle m'arrête, elle me dit arrêtez. Vous savez, je crois qu'elle était psychanalyste, hein, ce qui donne encore plus de poids à la phrase que je vais citer. Et elle me dit, je crois que quand on écrit, on devrait faire quand même attention à sa progéniture. Le mot progéniture a pris là tout à coup une ampleur considérable, parce que vous vous rendez compte à l'écrivain qui s'occuperait de l'effet que ça peut avoir sur sa famille, ses parents, ses enfants, etc. Évidemment, il serait embêté parce qu'il n'écrirait plus grand-chose. Par exemple, si je m'étais posé ce genre de questions pour savoir ce qu'allait en penser ma famille, j'aurais rien écrit, bien sûr. Donc c'était un mot qui m'a laissé décontenancé, voyez-vous, et muet.
Quelqu'un qui que vous aimiez aussi, que vous aimez toujours beaucoup, je crois, c'est Mauriac. Alors lui, il avait aussi une voix particulière. Et donc vous avez choisi de nous faire entendre... au fond, une émission qui s'appelle Impromptu de vacances, et où François Mauriac fait l'apologie des longues, grandes vacances d'été. Ça, c'est magnifique parce que Voilà, il explique que son œuvre n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu ces très longues vacances d'été.
Mauriac est un Landais qui a beaucoup cheminé sur les aiguilles de pin en espadrille. Donc c'est les Landes, hein, c'est le feu des Landes, etc. Il n'est pas bordelais, hein, parce que Bordeaux, c'était au contraire quelque chose de plus bourgeois, de plus canalisé, de plus maritime. Pas du tout. Ça, rien de maritime chez Mauriac. En revanche, La Voix brûlée, ça c'est une opération qu'il a eue. Ça lui a fait découvrir Mozart, d'ailleurs, sur lequel il a écrit des choses extraordinairement précises et très très étonnantes. Voilà, donc un musicien. Et j'allais le voir et j'étais tout à fait à l'écoute de sa voix parce que c'était quelqu'un d'une acidité, d'une vivacité, d'une intelligence, autrement dit, comme le prouve son bloc-notes, qui sur le plan politique, le type qui s'est le moins trompé, qui a dit les choses les plus justes au cours du temps, sur Hitler, sur Staline, sur la croix gammée, cette araignée gorgée de sang noir, voilà, le carnet noir de Mauriac. Non, c'est un type... Alors, la guerre d'Algérie, le Gaulle, on va pas rentrer là-dedans, mais je l'écoutais avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que c'était chaque fois une sorte de conseil. Vous comprenez ? Moi, maintenant, j'ai remis ma copie, par conséquent, je n'entends plus rien. Mais enfin, le soleil un jour s'est levé, alors c'était le désespoir de tous les écrivains. Alors, j'allais le voir. Ah ben c'est Proust, bien sûr. Alors, vous savez, là, quand Proust est apparu, je l'ai le voir. On allait le voir vers 2h du matin. Alors, parce qu'avant, c'était difficile, 2-3 heures du matin. Alors, il était dans son lit, il est rattaché dedans. Il mangeait du poulet froid. C'était extraordinaire. Oh, Proust, oui. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, j'ai remis ma copie.
Un homme qui avait un humour extraordinaire aussi, Mauriac.
Il y a des portraits, ça c'est la tradition des grands moralistes français, ouais. Qui sont extraordinaires que lorsqu'ils se mettent à fixer l'adversaire. Proust est un moraliste admirable aussi, les portraits sont considérables. Et Mauriac en politique, alors ça... C'est étonnant. Prenez le bloc-notes, il y a 5 petits volumes en poche. Regardez les années, etc. Et je lui dois beaucoup, puisqu'il a écrit à plusieurs reprises sur moi. C'est notamment cette phrase qui était parue dans l'Express à l'époque où il y avait des journaux un peu écrits. Et il dit « J'aurais été le premier à écrire ce nom ». Alors c'était moi, voilà. Ça m'a valu. Il y a eu une concurrence entre Aragon et Mauriac comme au sujet. Enfin, mais là, j'ai préféré prendre par les montagnes.
Vous disiez d'ailleurs qu'il écrivait ce bloc-notes assis sur un petit lit.
Il était sur son lit, admis Théophile Gautier. Il écrivait son bloc-notes sur ses genoux. Et il fallait tirer très juste. Et ça paraissait le jeudi, quoi. Et donc, un bloc-notes de Mauriac, ça pouvait quand même avoir une influence considérable. Voilà. Politique. C'était un grand politique. D'ailleurs, tous ces gens faits de la politique, on se tromperait en les classant uniquement comme des poètes ou des écrivains.
Ben, Breton a fait de la politique, ça c'est
comment,
certain.
Et comment il a été combien,
persécuté
Aragon aussi,
par Vichy, d'ailleurs.
Mais Artaud fait aussi de la politique.
Mais oui, 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 oui.
Et Bataille aussi, sans en avoir l'air, mais quand même.
Mm-hmm. Tout à fait.
C'est ça, voilà. En tout cas, ce sont des gens qu'on peut décréter. Le cas d'Aragon est complexe, mais enfin, qui sont certainement pas fascistes.
Ah non.
Eh bien alors, puisqu'on vous parle tout le temps du retour des démons, ben, il faut donc faire entendre ces voix. Il n'y a rien de moins fasciste que ces voix. Qui ne les aime pas a une propension à être fasciste. J'en connais.
Alors, vous nous proposez donc d'écouter Philippe Soler. Je cite dans des archives avec André Breton, Antonin Artaud, Georges Bataille et François Mauriac. Et puis donc, nous nous retrouvons après pour prolonger avec vous cette nuit que vous avez rêvée pour nous.